Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Les deux questions pour démarrer cette émission. Les deux programmes ne sont-ils pas déjà morts ? Les deux offres politiques de dimanche ont toutes les deux été conçues dans le monde d'avant. Et le monde, c'est le monde d'avant le 24 février. À maintenant, croissance faible, c'est très net. Inflation nettement plus forte et sans doute plus longue que prévu. Et une hausse des taux qui s'annonce. Voilà, les deux programmes ne sont-ils pas déjà morts ? Et puis, dans la même veine, est-ce qu'aujourd'hui, la France n'est pas menacée par une hausse de taux ? Ça fait depuis 2014 qu'on vit dans le monde de oui-oui, complètement sous perfusion de la Banque Centrale Européenne. Mais là, le monde est en train de changer. Et cet environnement monétaire est un point absolument clé, même si personne n'en parle. Je demanderai à mes invités comment ils qualifient globalement la campagne 2022 qui donc s'achève. Le mot de la semaine, il ne faut plus dire démondialisation, mais fragmentation. C'est le terme assez choquant, j'ai envie de dire, qui est ressorti des communications menées à la fois par la Banque mondiale et par le FMI. On va décortiquer les fameux 600 milliards d'euros de dette sous le quinquennat. Quelle est la part de Covid dans ce chiffre ? Vous aurez la réponse dans cette émission. Et puis, dans quel état se trouve l'économie française ? Dans quel état le futur chef de l'État trouvera la France ? Je poserai également la question. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, fondateur Merci. Du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès, auteur de Pour un libéralisme populaire aux éditions de l'Observatoire. François Eckal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris 1. C'est avec vous qu'on va décortiquer ces fameux 600 milliards d'euros. Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste aux Échos. Alors, vous ne serez pas surpris pendant cette émission que, volontairement, je ne cite aucun des deux candidats à la présidentielle. Vous savez qu'on a des contraintes absolument drastiques de temps d'antenne, de temps de parole. Nous devons arriver ce soir avec une équité parfaite. C'est pour ça que, par exemple, le SMS de Anne qu'elle m'a envoyé me posant une question sur le côté anticonstitutionnel d'une mesure d'un côté face à une autre mesure de l'autre, c'est intéressant, mais je lui répondrai que lundi et pas aujourd'hui, car si je me lance là-dedans, je vais inscrire du temps d'antenne. Et puis alors, j'ai beaucoup aimé le SMS d'Arthur. Bonjour, il y a un moyen très simple de faire baisser l'inflation avec la BCE. Bah oui, elle a qu'à nous acheter des voitures électriques. Comme ça, on n'aura plus besoin d'essence. C'est pas joli, ça. Avant, c'était le GSI.
Si elle achète des voitures électriques en contrepartie de création monétaire, ça fait de l'inflation, en fait. C'est-à-dire que
la BCE.
Non, mais quoi qu'elle achète. Si elle achète, elle peut acheter nos smartphones, des crayons, etc. En fait, ça augmente la taille de son bilan et donc ça fait de l'inflation.
Oui, mais là, aussi, il n'y a plus besoin.
Je comprends l'idée.
Bah, il écrit il faut qu'elle injecte des liquidités dans les voitures électriques. Comme ça, on n'a plus besoin d'essence. Et comme c'est vrai que près de la moitié de cette inflation, c'est lié au carburant. Allez, je commence par mon confrère Jean-Marc Vittori. Les deux programmes ne sont-ils pas déjà morts ? Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce qui nous a été vendu pendant 3 à 4 mois peut tenir dans le monde d'après ? Et ce n'est pas le monde d'après Covid. C'est le bon monde d'hier qui revient. Un monde d'injection massive de liquidités, un monde de pénurie, un monde de rareté, un monde d'inflation et un monde de croissance faible. Ça s'appelle stagflation dans d'autres termes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, si vous regardez les campagnes précédentes, les programmes étaient déjà morts le jour de l'élection.
En France, la
campagne électorale est un moment extraordinaire de promesses, de cadeaux en tout genre. Et si vous faites de la comparaison avec ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe vraiment dans les autres grandes démocraties, ou moins grandes d'ailleurs, on a vraiment une spécificité française là-dessus.
Par rapport aux Allemands et leur contrat de coalition post-élection, ça n'a rien à voir.
Mais par rapport aux Britanniques, aux Italiens, par rapport aux Belges, par rapport aux Américains, si vous regardez, on a vraiment une spécificité française d'irréalité pendant la campagne électorale. Et cette année, on n'a pas été déçus. Et effectivement, avec ce qui s'est passé le 24 février, qui change, je pense, de façon assez profonde le paysage économique mondial.
Et c'est pour ça qu'on parle de fragmentation.
Oui, oui, on va y revenir. C'est bien à cause de cette date. Mais donc, on a un changement durable, profond, structurel. avec ce conflit. Et donc, évidemment, tout ce qui a été conçu avant avec des équilibrages budgétaires qui étaient déjà pas très équilibrés, ça part complètement dans le décor. Mais il y a toujours des ajustements, et ça, c'est normal, même si en France, on a une particularité. On a toujours des ajustements dans toutes les démocraties entre le temps de la campagne et le temps de l'action politique.
Il y a PLS qui m'écrit, les experts le vendredi, normalement, c'est déprimant. Au vu des émissions de cette semaine, j'ai hâte.
Bah, PLS, c'est position latérale de sécurité.
C'est son nom Twitter. Si je vous dis, Nicolas Bouzou, c'est quoi le monde d'après, là? Alors, le monde d'après qu'on peut essayer de tenter de décrire aujourd'hui, c'est un monde qu'on n'aurait pas décrit le 15 janvier.
Alors déjà, moi, je pense qu'il y a un monde d'après, en fait. Et je pense que ce monde d'après, il est lié à la conjonction de la guerre en Ukraine, évidemment, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler Covid-2. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Chine, semble extrêmement... important du point de vue économique. J'ai beaucoup travaillé là-dessus ces derniers jours et ces dernières semaines, notamment avec certains clients d'Asterès. Il faut quand même bien voir que la Chine est du point de vue sanitaire, est au point où nous en étions, nous, il y a un petit peu plus de 2 ans, avec 1,2 milliard de personnes et des villes de 20-25 millions d'habitants. Ce qui se passe aujourd'hui à Shanghai, en 30 secondes, mais donc Shanghai, 25 millions d'habitants confinés, mais pas confinés. Ceux qui ont pensé que l'auto-attestation, il y a 2 ans, c'était une dictature, faut qu'ils regardent ce qui se passe à Shanghai. C'est-à-dire que Shanghai, c'est évidemment du logement collectif, ce sont des immeubles avec des milliers de personnes. On vient faire un test PCR chez vous tous les 2 jours, ça peut être à 2 ou 3 heures du matin d'ailleurs. S'il y a un cas positif, y compris un enfant, il est sorti, il est emmené dans un centre spécialisé. Et surtout, tout l'immeuble est scellé. Il est scellé. C'est-à-dire que le gouvernement de Shanghai
met un
surtendant de vol. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, les gens ne sont pas confinés, en fait,
contre les portes.
Ils sont emprisonnés. Et donc, comprenez bien que pour aller travailler, c'est compliqué.
Et pour trouver à manger.
Et pour trouver à manger, c'est compliqué. Et il y a assez peu d'aides. Les aides, on a regardé ça vraiment dans le détail, les aides viennent du gouvernement de Shanghai, mais c'est pas l'automaticité du chômage partiel d'il y a 2 ans. C'est pas du tout ça. Il faut aller les chercher, il faut aller chercher des prêts. Enfin, tout ça est quand même extrêmement, extrêmement compliqué. Et surtout, et je pense que c'est un élément de réponse à votre question, on ne voit pas comment ils vont s'en sortir. On ne comprend pas, si vous voulez, la sortie, parce que...
En arrêtant la stratégie zéro Covid.
Oui, mais ils n'ont pas de vaccin efficace, et pour des raisons politiques, ils ne veulent pas acheter nos vaccins. Oui. Nous, on est en surproduction de vaccins, ce qui était quelque chose qu'on avait très bien anticipé il y a 1 ou 2 ans, et qui est normal, il n'y a pas... On savait qu'on en produirait trop, et c'était pas grave. Mais donc, aujourd'hui, on serait en capacité d'exporter des vaccins. Ils ne veulent pas acheter nos vaccins. Donc, quand vous avez Omicron qui arrive sur 1,2 milliard de personnes avec des métropoles sans vaccins, je peux vous dire que le processus de sortie est quand même compliqué à trouver. Donc, vous avez ça. Donc, du point de vue macroéconomique, ça veut dire que vous avez une offre qui est contrainte en Chine. Bon, et puis, vous avez aussi, bien évidemment, des contraintes d'offre qui viennent de la guerre que la Russie fait à l'Ukraine. Donc, cette situation macro de demande globale supérieure à l'offre globale au niveau mondial, c'est quelque chose, avec les conséquences que ça a sur l'inflation, sur les salaires, etc., c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est installé. Et ça, c'est quand même très différent de la situation que l'on connaissait il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Sur le plateau des experts, depuis 15 ans, les débats sur l'inflation, c'était quand même des débats de profs de macroéconomie.
Oui, absolument.
On avait une inflation de 0,8%. Alors
mais regardez la sous-jacente.
Est-ce qu'il ne faut pas baisser la cible d'inflation? Enfin, ça nous intéresse, mais enfin, ce n'est pas très concret. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est 6-7% d'inflation. Est-ce que ça va durer? Moi, ma position est minoritaire. Je peux me tromper, bien évidemment, ça m'arrive. Je pense que ça va durer. Mais... un monde avec même une inflation pas très forte, mais 5, 6, 7% d'inflation.
Ça commence à être pas mal, 5, 6, 7, non,
hein. Puis, c'est des réflexes qui sont différents des réflexes d'un monde sans inflation. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Vous voyez? Et donc, oui, il y a un monde d'après. Et pour clôturer sur votre question, est-ce que les programmes étaient adaptés à ça? Non. Alors, Jean-Marc Vittori a tout à fait raison de dire que les programmes en France sont plus vagues que les programmes qui sont faits dans les pays anglo-saxons. Où 3-4 ans avant l'élection, vous avez des dizaines de think tanks qui travaillent pour le parti et qui font des choses mais incroyablement précises. Donc nous, on n'a pas ça. Les think tanks, ils font un peu d'évaluation, mais ils font assez peu de choses programmatiques. Donc les anglo-saxons ont ça, c'est très bien. Nous, on ne l'a pas. Alors l'avantage que j'y vois en ce moment, c'est que ça donne au programme une adaptabilité
qui est
plus importante.
François Eckhall, dans ce monde... Je ne vais pas vous poser la même question, mais dans le monde d'après que l'on décrit, objectivement, on se disait, la BCE, là. J'ai regardé, l'Agence France Trésor, tous les ans, dans la loi de finances, donne une cible de taux d'intérêt à 10 ans pour la France à la fin de l'année. En 2022, elle avait mis 0,75%. On est à 1,39%. on voit que les facilités budgétaires vont être contraintes par la politique monétaire qui se resserre. Enfin, là, les taux remontent. Est-ce que il faut s'inquiéter à 39, même si on est en taux d'intérêt réel négatif, ou se dire, ouh, le monde d'après, la suite du monde d'après, c'est un monde de taux beaucoup plus élevé. Et qu'il y a un moment, eh ben, quel est le moment où c'est supportable, ou est-ce qu'il y a un seuil d'alerte, en fait ?
Non, alors les taux remontent, hein, c'est indubitable, mais les taux d'intérêt réels, eux, ils baissent, hein, parce que l'inflation est beaucoup plus forte que la hausse
des taux. On est d'accord.
Donc, et par ailleurs, la charge d'intérêt, bon, si on se place du point de vue budgétaire, la charge d'intérêt, elle est très inerte, en fait. Hein, je pense qu'elle va continuer encore à baisser, là, parce qu'on est encore en train de payer des intérêts sur des emprunts émis il y a 10 ans, qui étaient à des taux beaucoup plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui, même avec la hausse des taux.
Donc, et même avec les OATI, les obligations indexées sur l'inflation, où là quand même...
Il y a 10% oui, à peu près 10, des OAT plus, qui ouais. sont indexés sur l'inflation en France ou dans la zone euro. Et en effet, là il y a un effet, mais il n'est pas si important que ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, en effet, la charge d'intérêt a un peu augmenté. Uniquement à cause de cet effet indexation, mais ça devrait pas jouer. Enfin, ça ne continuera à jouer que si l'inflation continue à augmenter encore. Bon, donc non. Enfin, je pense que la charge d'intérêt, elle restera quand même limitée. Mais il faut voir que quand on emprunte, on s'engage. Ce qu'on oublie souvent, c'est on parle beaucoup de la charge d'intérêt, mais quand on emprunte, on s'engage à payer des intérêts, mais on s'engage surtout à rembourser le principal.
C'est le service de la dette.
Le service de la dette, c'est pas le principal aujourd'hui. C'est 130 milliards d'euros. Uniquement pour les OAT à moyen et long terme, sans même compter le remboursement des emprunts à court terme. La charge d'intérêt, c'est 30-35 milliards d'euros. Donc le principal, c'est beaucoup plus.
C'est par an, ce que vous dites. Hein.
Par an, bien sûr.
Quand les gens entendent 130, ils doivent se dire. Je croyais qu'il y avait 2830.
Par an, bien sûr. Donc c'est beaucoup plus important. Donc je pense qu'il ne faut pas se polariser sur la charge d'intérêt. Il n'y a pas de limite sur la charge d'intérêt. Elle va remonter, c'est sûr. Mais il y a sur. Très progressivement hein, en réalité, mais il n'empêche qu'on a quand même un problème hein, d'endettement. Ce problème, il est lié au fait que il faut continuer à pouvoir réemprunter pour rembourser. Bon, il n'est pas acquis.
C'est la question clé. Est-ce qu'il y a un seuil d'alerte? Je lisais ce matin des économistes.
Il n'y a pas de seuil d'alerte.
Qui dit si dans un mois et demi vous venez sur ce plateau, François Eckel, et que je vous dis pas 1,39 mais 2,5.
Ça sera 2,5. Non, aujourd'hui, tant que la Banque Centrale Européenne est là pour acheter des titres, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on peut s'endetter sans aucune difficulté.
Elle ne coûte rien, la dette qui est reprise par la BCE.
Ça ne durera pas indéfiniment, parce que non seulement la Banque Centrale Européenne va relever ses taux quand même un jour ou l'autre, mais en plus, elle l'a déjà dit, elle va arrêter d'acheter des titres publics sur le marché. Donc, il va falloir retourner sur les marchés financiers. Il va falloir convaincre, maintenir la confiance des créanciers de l'État. Mais les créanciers de l'État, je pense qu'ils sont quand même persuadés que, de toute façon, la Banque Centrale interviendra.
C'est ma conviction. C'est ma conviction aussi. Je pense qu'elle interviendra.
Oui. Je pense qu'en effet, elle interviendra, qu'elle ne laissera pas tomber un État de la zone euro. Et c'est pour ça que je pense que le problème ultime, mais il est à très long terme, de l'endettement de la France ou des pays du Sud, c'est qu'on a un fossé entre le Nord et le Sud de l'Europe. Et moi, ce que je crains, c'est un jour l'arrivée au pouvoir dans un pays du Nord, d'un parti populiste sur le thème on en a marre de payer pour les retraites des pays du Sud. Et donc ce jour-là, ils sortiront de la zone euro, ça sera peut-être les Finlandais ou les Hollandais, ce sera pas les Allemands pour des raisons géopolitiques, mais
pour des raisons historiques,
mais la zone euro éclatera.
Alors, allons-y sur ce thème, Nicolas Bouzou, Jean-Marc Vittori. Y a-t-il un seuil d'alerte? Parce qu'on a beaucoup parlé de cette dette, certains ont parlé d'annulation à un moment, bon, on sort de ce débat, on l'a traité ici. Faut-il s'inquiéter? Pour l'instant, ça passe. On sait que de toute façon, une charge d'intérêt met de nombreuses années à devenir lourde, même s'il y a une remontée des taux. Qu'en pensez-vous, Nicolas?
Je pense qu'il faut choisir son camp. C'est-à-dire qu'on s'inquiète de la dette.
Nord, quoi.
On s'inquiète de la dette ou on s'inquiète de l'inflation. Mais en fait, on ne peut pas s'inquiéter des deux. Puisque l'inflation.
Expliquez-moi.
L'inflation rembourse la dette, en fait. En grande partie.
Partie de l'inflation vient stériliser la charge.
Si vous regardez tous les ratios financiers, l'inflation, ça fait baisser mécaniquement tous les ratios financiers. On le voit en ce moment aux États-Unis. Vous avez 8, 9, 10% d'inflation. Les ratios financiers, ils s'améliorent tout seuls, en fait. Et donc, justement, le monde d'avant, c'était un monde où, légitimement, on pouvait s'inquiéter de la dette. Alors, je dis, il faut choisir son camp. Moi, j'ai choisi le mien. Encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais moi, je m'inquiète plutôt de l'inflation et de ses conséquences de déstabilisation sociale, etc.
Oui.
Plus que de la dette. Parce que, et au fond, quand vous regardez un peu l'histoire, Les deux plus grosses crises qu'un pays peut connaître, c'est pandémie et guerre. C'est les deux plus grosses. Et c'est les deux plus... C'est celles qui génèrent le plus d'endettement, en fait. Alors nous, on a les deux, même si la guerre, on ne l'a pas directement, mais enfin, disons que ce n'est pas très loin, et je schématise un peu. Donc c'est tout à fait exceptionnel, ce qui nous arrive. Et en fait, après toutes ces périodes dans l'histoire, on s'est débrouillé d'une façon ou d'une autre pour avoir des taux d'intérêt réels négatifs pendant longtemps. Et c'est ça, ce qui permet justement de rembourser la dette. Après, c'est ni magique, ni facile. Hein. Ça pose plein de problèmes. C'est un arbitrage qui est compliqué, d'accord ? Parce que les gens s'en sont pas encore rendus compte, mais aujourd'hui, prenez... en France, il y a beaucoup d'épargne. Le meilleur placement sans risque net d'impôt aujourd'hui, si vraiment vous êtes très fort, ça va être 2%, sans prendre un risque inconsidéré, ça va être 2%. On a une inflation en France qui est très basse hein, par rapport aux autres, elle est à 5%. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, si vous êtes un génie de la finance,
rendement négatif
dans le pays dans lequel il y a le moins d'inflation, vous perdez 3% par an, ce qui est beaucoup. D'accord ? Donc, la ruine de l'épargnant, en fait, on y est déjà. Donc, c'est pas... Enfin, je veux dire, socialement, quand les gens vont le réaliser, ça va avoir des implications. Donc, vous voyez, pour moi, le sujet...
C'est l'inflation.
Plus celui-là qu'a... Après, je reste un... Vraiment, puisque j'ai un surmoi libéral qui reste très fort, je pense qu'il faut vraiment réformer l'État. Mais aujourd'hui, je le vois plus comme un moyen, en fait, d'améliorer la qualité des services publics, par exemple. Je pense que c'est très important. Plutôt que comme un moyen d'améliorer nos ratios de...
Police d'assurance sur la dette de demain. Bon, Jean-Marc, dans quel camp êtes-vous?
Jean-Marc, ça peut être audacieux.
Façon de dire, je suis dans le camp de la dette ou le camp de l'inflation, c'est une grille de lecture tout à fait pertinente.
Alors d'abord, à la fin, c'est l'épargnant qui paye.
Oui,
dans cette situation-là, dette, inflation, hein, dans un cas comme dans l'autre, à la fin, c'est l'épargnant.
C'est deux façons différentes.
Et ça, on a des millénaires d'histoire.
Jean-Marc est le premier à l'avoir dit il y a plus de 10 ans sur le plateau.
Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète, vous avez cité les pandémies, les guerres, ok. En Grèce, il y a 10 ans, il n'y a pas eu de pandémie, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu le PIB qui a baissé de 25%. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un problème de la dette publique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que, moi, c'est le scénario qui m'inquiète, c'est celui-ci. C'est les investisseurs, ils changent d'avis du jour au lendemain. Et ça, l'histoire financière aussi le prouve de manière constante. Hein, et c'est exactement ce qui s'est passé pour la Grèce. Les économistes parlent d'équilibre multiple. Hein, on est dans un équilibre où les investisseurs financent massivement la dette. Et puis, du jour au lendemain, ou en un mois ou deux, ça s'est passé en un mois ou deux, quand vous regardez ce qui s'est passé en Grèce, ils arrêtent d'investir. Ils arrêtent de financer la Grèce. Et s'ils arrêtent demain de financer des pays plus importants, ça peut devenir là très très vite très compliqué. Et si on a 5, 6, 7, 8% d'inflation, je ne suis pas sûr que la Banque Centrale Européenne aura comme premier réflexe de venir au secours de ce pays. Alors là-dedans, on a une immense chance.
Arbitrage inflation dette.
On a une immense chance là-dedans, c'est l'Italie. Parce que je pense que si on a un scénario de ce type-là, ça se passera en Italie avant de venir en France. Et donc, parions, espérons, en français bon teint, que l'Italie va continuer d'être dans une dérive triste qui fera qu'elle servira de paratonnerre à la France.
Mais ça n'est pas très européen. Il y a un moment, si elle est dans le cas que décrit François, cette fois-ci pas au nord mais au sud, et qu'il y a une menace d'explosion, est-ce que la BCE, finalement, avec 7% d'inflation, sera en capacité de venir, quoi qu'il arrive, en aide aux États?
Le whatever it takes, hein, la phrase magique mythique qu'a prononcée Mario Draghi il y a 10 ans, il l'a prononcé à un moment où il n'y avait pas de risque d'inflation.
Il avait raison, celui qui disait que c'était déprimant le vendredi.
Non.
François, par rapport à ce qu'on disait en la 2 minutes 50, on a compris qu'il n'y avait pas de menace immédiate, mais on a compris que le monde d'après était quand même un monde hyper compliqué à gérer. Les arbitrages sont compliqués entre dette et
inflation. Je reviens sur le sujet dette et inflation. C'est le sujet de mon billet hebdomadaire sur Pipeco. Donc, je suis d'accord avec l'analyse. C'est l'analyse classique de l'effet de l'inflation sur la dette. C'est-à-dire que
l'inflation... C'est vrai, cet effet.
Voilà, dans un premier temps, l'inflation, ça augmente les recettes publiques, parce que la TVA augmente, les cotisations sociales, tout augmente, etc. Ça augmente aussi les dépenses publiques parce que, de fait ou de droit, elles sont indexées sur l'inflation. La seule dépense qui n'augmente pas, c'est la charge d'intérêt, parce qu'en effet, elle est très inerte. Voilà. Donc, dans un premier temps, ça permet d'améliorer les finances publiques, la dette publique, etc. Il y a deux éléments aujourd'hui qui font que c'est peut-être pas totalement vrai. Premier élément, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit une inflation qui concerne, je dirais, tous les prix et les salaires. C'est en fait, techniquement, c'est le prix du PIB qui augmente. Or, aujourd'hui, le prix du PIB, il augmente beaucoup moins vite que l'inflation, parce que la caractéristique actuelle de l'inflation, c'est une inflation importée, qui porte essentiellement sur les produits importés, les carburants, enfin, le pétrole, le gaz, les matières premières, etc. Et dans ces cas-là, la TVA augmente, oui, mais pas les cotisations sociales, s'il n'y a pas de répercussions, tant qu'il n'y a pas de répercussions sur les salaires. Donc, il n'y a qu'une partie des recettes qui augmente. En revanche, les dépenses, l'indexation des prestations sociales, elle est faite sur l'inflation au sens des prix à la consommation. Donc, il y a un déséquilibre là qui fait qu'en fait, le déficit peut augmenter beaucoup plus. Puis, deuxième raison pour laquelle ça ne va peut-être pas se passer comme ça, c'est contrairement à tout ce qui s'est fait dans le passé, et là, on rejoint la campagne présidentielle, aujourd'hui, on dit aux Français, et les Français veulent que l'État va compenser les effets de l'inflation sur leur pouvoir d'achat par des mesures budgétaires. Alors que ça s'appelle, ce soit par des primes, des baisses d'impôts, de TVA, tout ce qu'on peut imaginer, mais enfin, en tout cas, le résultat est le même, c'est que ça accroît le déficit budgétaire, et si on multiplie les mesures dans ce sens et puis on va les multiplier, en réalité, je crains que ça ne se passe pas comme ça se passe traditionnellement. C'est-à-dire que l'inflation est au contraire pour effet, là, d'augmenter la dette publique.
Bonne fin de semaine. On va marquer une pause. Comment qualifiez-vous la campagne 2022? On ne va pas citer les finalistes, on est bien d'accord, mais comment vous la qualifiez? Quel est le ressenti d'un observateur économique sur l'économie au terme de cette campagne? Et puis on évoquera le terme de fragmentation qui a été un mot de la semaine et les 600 milliards d'euros de dettes dont on a entendu parler tout récemment sur l'ensemble du quinquennat. Quelle est la part Covid dans ce chiffre? Voilà la question qui sera posée. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. Vous avez publié Pour un libéralisme populaire aux éditions de l'Observatoire. Vous avez fait un carton avec votre estimation de ce que rapporterait une baisse de TVA sur les produits de première nécessité. On n'a parlé que de ça. Tiens. François Eckhall, fondateur de Fibéco.fr, professeur d'économie à Paris. Jean-Marc Vittery, éditorialiste aux Échos. J'ai bien aimé la phrase de François pendant la pub. En fait, les programmes, ils sont pas morts. Le pire, c'est qu'on va en rajouter. Effectivement, on risque de continuer à essayer d'éponger cette inflation avec de l'argent public. Je commence avec vous, Nicolas Bouzou, comment vous qualifiez la campagne 2022 en tant qu'économiste?
Alors déjà, je trouve que la campagne de second tour était intéressante parce que pour le coup, on avait quand même deux projets qui étaient très différents. Donc il y avait une vraie confrontation avec des modèles économiques, presque des modèles de société qui étaient différents. Et donc ça, je trouvais ça légitime et plutôt intéressant. Sur la première partie de la campagne, je trouve que globalement, on était trop sévère. Moi, je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels il y a eu des vrais débats. Sujet écologique, par exemple, on a beaucoup parlé du nucléaire, on a beaucoup parlé des éoliennes. Alors après, on peut toujours mais on peut pas parler de tout, il y a une guerre, c'est pas de notre faute, on sort de la pandémie, c'est pas de notre faute, et donc voilà, je trouve que globalement je suis un peu plus indulgent, on va dire, que les commentateurs médians. Après, moi, ce que je pense très, très important, et ce qui, à mon avis, va marquer l'avenir, c'est pas la campagne, ça va très au-delà de la campagne, et je l'ai ressenti dans le débat public ces dernières semaines, c'est l'extraordinaire, et alors, peut-être donner le sentiment d'enfoncer une porte ouverte, mais l'extraordinaire fracturation de notre société en deux. Mais vraiment, là, je l'ai ressenti presque physiquement. C'est-à-dire que c'est évidemment une fracture sociale, pour reprendre un terme consacré depuis 30 ans. Mais en fait, ce sont deux parties de la France qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, mais ça va au-delà de ça, qui ne parlent plus le même langage. Et en fait, ce que les Américains ont vécu il y a quelques années, nous le vivons aujourd'hui. Et ce qui me frappe beaucoup quand je regarde l'évolution de la société américaine, c'est qu'au fond, le changement de président n'a absolument rien changé à cette fracture. Vous voyez, comme si finalement c'était un peu superficiel, mais il y avait une espèce d'infrastructure économique et sociale qui était extrêmement forte. Et ça doit quand même nous amener à réfléchir. Et les économistes, ça doit les amener à réfléchir sur vraiment ces questions sociales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là, très, très concrètement, pour faire en sorte que cette fracture, voilà, qu'on réussisse à la soigner. Donc ça, pour moi, c'est l'enjeu numéro un. Et ça va nous ramener très rapidement aux questions d'inflation, si je fais le lien avec ce que l'on s'est dit avant la pause. Moi, je pense que les frustrations sociales sont extrêmement fortes. que la demande sociale est extrêmement forte et que ces prochains mois et ces prochaines années, en France comme ailleurs, ça a commencé aux États-Unis dès l'été dernier d'ailleurs, vont être marquées par des revendications sociales extrêmement classiques.
Et salariales.
C'est-à-dire des hausses de salaire. Les grèves en France, traditionnellement, c'était pas des grèves de salaire, c'était des grèves de choses un peu plus bizarres. J'ai mon statut, je veux le conserver, je sors, ou alors j'ai 20 ans, mais j'ai très peur qu'on me demande de travailler un peu plus dans 40 ans, donc je fais... C'était quand même des choses un peu baroques. Les grèves de demain, à mon avis, c'est pas ça du tout. Les grèves de demain, c'est ma boîte est partie sur une augmentation de salaire de 3%, l'inflation est à 6%, je veux 7%. Et donc je travaille, et donc je débraye. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il me semble, hein, que ça va être quasiment notre quotidien ces prochaines années.
J'ai eu des chefs d'entreprise qui disent exactement la même chose et eux, ils les signent, les fiches de salaire, et ils s'attendent même à ce que ces tensions apparaissent dès la rentrée. Et qu'on n'attende la prochaine NAO, la négociation annuelle obligatoire. Alors, les réponses des économistes, oui, elles sont utiles, mais je pense qu'avant, on va commencer par en rajouter, comme disait François Eckhardt. Le bilan, comment vous qualifiez la campagne, Jean-Marc Viteri?
Alors, on a eu un premier temps qui a été très axé sur les questions de sécurité et d'immigration, suite à un candidat disparu à l'issue du premier tour. Et donc ça, honnêtement, ça n'était pas passionnant sur le fond. Quelle que soit la situation où on se place, parce qu'on était dans un sentiment de... En fait, on était connecté au réel d'un certain nombre de Français, mais déconnecté d'une image un tant soit peu globale de ce qu'on peut faire et de ce que ça donne. La seconde partie a été plus intéressante, je trouve, avec effectivement les questions de pouvoir d'achat qui sont montées au premier plan, questions écologiques aussi, même si je crois que discuter de l'arbitrage nucléaire éolienne, c'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Et on a même trois grandes transitions hein, qui sont en cours. On a la transition écologique, on a la transition numérique et on a la transition géopolitique. La transition écologique, on en a parlé un petit peu et je crois que l'ampleur du changement n'était absolument pas dans le débat. La transition numérique, on n'en a pratiquement pas parlé. Et la transition géopolitique de manière très indirecte. Donc les grands sujets n'ont pas été abordés, mais ça je dirais c'est finalement pas très étonnant dans une campagne électorale. Une campagne, un débat de second tour, au-delà du débat de mercredi soir, un débat de second tour qui était intéressant, qui montrait effectivement deux visions de la France, deux conceptions, mais effectivement je partage tout à fait le diagnostic d'une France profondément fracturée, dissociée et l'incapacité de se parler. Hein. Oui. Et je pense que l'effet direct des réseaux sociaux sur la façon dont on réfléchit est compliqué à mesurer, etc.
Mais on voit bien que
de plus en plus, les gens sont enfermés dans leur cercle.
C'est ça.
Et la démocratie, c'est le contraire. La démocratie, les premières formes de démocratie à Athènes, elles étaient limitées par la taille de la place où se réunissait tout le monde. Hein. C'était 6000 personnes, on ne pouvait pas se mettre à plus de 6000, et donc la démocratie, il y avait 6000 citoyens, parce que et on était 6000 dans un espace commun. Les masses médias ont permis de faire une vraie démocratie à beaucoup plus grande échelle, à l'échelle d'un pays, mais à condition qu'on soit tous dans le même espace. Et là, on voit bien qu'on est de plus en plus dans des espaces dissociés, qu'il y a des groupes qui sont dans des espaces dissociés. Et donc, ça rend un fonctionnement de la démocratie extrêmement compliqué.
C'est sûr qu'un réseau social, quand tu es sur un réseau social et qu'automatiquement l'algorithme va t'amener vers les gens qui pensent comme toi, ça finit par faire une mini-communauté qui va exacerber souvent les réactions. Même question, François Eckhall, petit bilan.
Je pense aussi qu'on a eu, on nous a proposé des vrais choix de société, hein, vraiment très différents, et qui reflètent en effet une division très profonde des Français, une fracturation des Français sur beaucoup de sujets. Pour ce qui est des finances, des sujets budgétaires, hein, je pense que c'était assez démagogique, mais c'est l'effet pervers, c'est l'effet pervers du quoi qu'il en coûte. Moi, le quoi qu'il en coûte, ça ne me pose aucun problème. C'était nécessaire, c'est indispensable même, mais l'effet pervers, c'est que ça donne l'impression qu'en effet, maintenant, il n'y a plus aucune limite à l'endettement, au déficit budgétaire, etc. Et ça, on l'a retrouvé chez tous les candidats.
Hein. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que dans le débat de mercredi, la question du financement n'a pas été abordée. Et alors, je ne sais plus qui a fait cette étude assez passionnante sur ces deux France que vous décrivez, Nicolas Bouzou, mais en prenant simplement la voiture, l'observation de la voiture, et tout ce que la voiture suppose, eh bien, on arrive à décrire une partie de ces deux France.
C'est ce qu'explique très bien, notamment sur votre plateau, Robin Rivaton, je le cite de mémoire.
Ah ben oui.
Les jeunes qui ont le permis de conduire à Paris, c'est un quart, et en province, c'est les trois quarts. Quoi. Voilà, donc, rien que cette statistique nous donne une indication sur ce...
Très belle interview de Yann Algan dans Les Échos, à laquelle je me permets de me référer aussi.
Je ne l'ai pas lu, c'était quand ? C'est
hier.
Hier, ouais. Oui. 600 milliards d'euros de dettes en 5 ans, François Eckhall. Qu'est-ce que Covid permet d'expliquer sur ce montant ?
Alors, en effet, de fin 2017 à fin 2021, la dette publique a augmenté de 560 milliards d'euros.
Donc ça fera 600, voilà, 600 mi-2022.
Pas 40 milliards près aujourd'hui.
Non mais bon, fin 2021, 560, mi-2022, 600. Voilà, bon.
C'est bon, allez, 600 milliards. Là-dessus, on a 160 milliards de mesures d'urgence et de relance. Les indemnités d'activité partielle, les aides du fonds de solidarité, le Ségur, enfin tout ça, voilà, ça fait 160 milliards. Après, il faut aussi tenir compte du fait que la crise Covid, elle s'est traduite par une chute de l'activité et des recettes publiques en 2020. Et ça pas on n'est pas totalement remonté au point de départ en 2021. Donc il y a un effet, les économistes appellent sur le déficit conjoncturel, mécanique totalement.
Manque à gagner.
C'est à peu près le même ordre de grandeur hein, dans les 150 milliards. Voilà, donc si on additionne les deux, on a un effet Covid qui est un peu plus de 300 milliards sur un total qui est d'un peu moins de 600 milliards. Donc c'est un peu plus de la moitié, hein, en réalité. Donc, on va me dire, bah, le reste, c'est la faute de...
Bon, voilà. Du quinquennat.
Mais, il ne faut quand même pas oublier qu'en 2017, on ne part pas d'un déficit zéro.
C'est ça, il y a l'héritage.
On part d'un déficit de 70 milliards. Donc, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait donc tomber à zéro en 2018. Ce serait absurde. Donc, on a quelque part, il y a une espèce d'héritage. Si le déficit avait été maintenu à 70 milliards d'euros pendant 4 ans, bah, la dette, c'est une accumulation de déficit. En termes de supplément de dette, ça fait 4 fois 70, ça fait 280 milliards. Mécaniquement, je veux dire, simplement du fait de cet héritage. Voilà.
Il n'y a pas 280 milliards non, hérités du prédécesseur. Il y a une dynamique
moins,
à 70.
Il y a une dynamique, il y en a moins, ouais. Mais, non, mais voilà, bon. il ne faut pas oublier le point de
d'accord,
départ.
Ouais,
si on met à part, tant bien que mal, l'effet Covid, oui. À la fois l'effet volontaire et l'effet involontaire des stabilisateurs automatiques, donc si on met ça à part, la situation ne s'est ni améliorée ni dégradée.
C'est même en réalité un peu amélioré.
D'accord.
Voilà. Non mais voilà, cette photographie méritait d'être précisée. Alors, il y a souvent eu ce débat. Et puis d'ailleurs, il y avait même des moments où moi, en tant que commentateur de l'actualité économique, c'était compliqué de venir devant les gens et leur expliquer que le chômage allait mieux parce que le taux de chômage baissait, mais tout d'un coup, Pôle emploi, le même jour, pratiquement, avait des chiffres qui disaient le contraire. Alors j'ai essayé de dire, le jour où les deux diront la même chose, on sera vraiment sur une dynamique positive. Mais là, récemment, je vous laisse deviner quand, on a eu ce débat. Et opposition de vision sur qu'est-ce qui s'est passé sur le front du chômage. Alors, quand vous parlez du chômage, Nicolas Bouzou, est-ce que vous regardez le taux de chômage calculé tous les 3 mois par l'INSEE au sens du Bureau international du travail qui correspond à une définition très précise du chômeur, 15 ans ou plus, enfin je ne vais pas vous faire toute la liste.
Et à partir d'une enquête.
Ah, c'est ça. Et à partir d'une enquête, ou est-ce que vous regardez les inscrits à Pôle emploi en additionnant la catégorie A, la catégorie des gens qui n'ont pas du tout travaillé dans la période, la catégorie B, la catégorie des gens qui ont travaillé moins de 78 heures pendant la période, et la catégorie C, les gens qui ont travaillé partiellement, mais plus de 78 heures.
Alors,
lequel fait foi, parce que c'est vrai
trois choses.
Ah, je regarde trois. Comment rajoute un déjà
qu'avec non, parce qu'il y en a un que je regarde pas. C'est que je regarde marginal, enfin de loin, c'est les inscriptions Pôle emploi.
Ah, d'accord. Okay.
Non, celui que je regarde, évidemment, c'est le taux de chômage au sens du BIT, puisque comme l'a dit Jean-Marc Vitorie, c'est une enquête, donc c'est fait sur un échantillon représentatif de la population, et surtout, en fait, on demande aux gens s'ils sont au chômage. Donc là, il n'y a pas de biais administratif, puisque c'est une enquête, ce sont les gens qui répondent. Donc ça, c'est le bon indicateur. Mais il est soumis aussi à des mouvements de population active, etc. Donc moi, je regarde trois indicateurs. Je regarde le taux de chômage au sens du BIT. Première chose. Deuxième chose, je regarde tout simplement, enfin, c'est ça l'indicateur le plus simple, c'est l'emploi salarié dans les entreprises, enfin dans le secteur marchand, les entreprises pour l'essentiel.
Les créations nettes d'emploi.
Voilà, parce que ça on ne peut pas tricher, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'effet bizarre, voilà, les entreprises créent des emplois, elles créent des emplois. Bon, donc ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, je regarde les pénuries de main-d'œuvre, je regarde l'enquête INSEE sur les pénuries de main-d'œuvre. Alors ce que je peux vous dire quand je croise ces trois indicateurs, c'est que vraiment il n'y a aucun problème, la situation s'améliore très vite. Sur le marché du travail en France. Bon. Voilà. Non, non, mais elle s'améliore. Non, mais... Après, qu'il y ait encore beaucoup de gens qui voudraient, qui travaillent pas suffisamment, qui voudraient travailler plus, qu'il y ait des secteurs où il y a encore du chômage. Oui, bien sûr, on peut entrer dans ce débat. Mais la vérité, si vous croisez ces statistiques, alors peut-être que je me trompe sur le choix de mes statistiques, mais en tout cas, moi, le diagnostic que j'en tire, c'est que la situation s'améliore très rapidement.
Moi, je suis à peu près sur les mêmes champs d'observation. Mais il y a toujours ce débat avec les deux sources régulièrement servies à l'opinion publique qui ne disent pas forcément la même chose. C'est comme ça que d'ailleurs on accuse notamment les commentateurs que je suis de raconter n'importe quoi. Et si généralement je raconte une bonne nouvelle, on considère que je suis à la solde du pouvoir en place parce que la nouvelle est bonne.
Juste 10 secondes pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant. C'est très important parce que ça, c'est, j'élargis un peu le sujet, mais c'est la question de la post-vérité. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas de vérité, c'est qu'il n'y a pas de moyen de mesurer la situation du marché du travail, et donc ça n'est qu'une affaire d'opinion, et puisque vous êtes sur BFM Business, vous êtes vendu évidemment au grand capital, et donc,
bah oui, ça...
bon, on n'a pas le droit de faire de politique aujourd'hui, mais non, mais vous m'avez compris, et voilà, et donc, non mais c'est un problème qui est gravissime, parce que si on ne s'entend plus, par exemple, oui, sur le diagnostic,
ce que je disais tout à l'heure,
il n'y a plus de démocratie, oui, il n'y a plus de discussion possible, et donc il n'y a plus de démocratie possible. Donc la question que vous posez est d'une profondeur abyssale.
Ah mais je suis d'accord, il a fallu que j'insiste sur le fait que l'INSEE était un institut totalement indépendant, dont les qualités plus, oui, sont reconnues dans le monde entier.
Non mais voilà, oui, parce qu'il est vraiment indépendant pour le coup.
Jean-Marc Vittori.
Et il n'y a pas que ça sur l'INSEE, c'est indépendant, reconnu dans le monde entier, et avec des méthodes, des technologies, des façons de travailler qui sont issues d'un long travail, qui a duré des décennies, de mise au point de ces indicateurs. C'est pas bricolé dans un coin, c'est vraiment un long consensus qui a été fait. Tous les instituts statistiques dans le monde entier travaillent de la même manière sur un certain nombre d'indicateurs, etc. Donc, voilà.
Mais c'est très très important qu'il y ait une confiance au moins universelle dans le pays sur ces éléments-là, parce que sinon, c'est pas possible.
Alors, le deuxième point, bon, je suis assez d'accord sur la batterie d'indicateurs
évoquée
par Nicolas. On peut en rajouter, effectivement. Il y a différentes enquêtes de conjoncture de l'INSEE avec des questions sur l'emploi. Il y a aussi les chiffres URSSAF qui là indiquent les rentrées. Donc là, c'est totalement incontestable sur l'emploi. Ensuite, il faut bien voir que toute statistique est issue d'une convention. Hein, on calcule d'une certaine manière, on est obligé de faire des choix. Même la statistique la plus basique, la population, quand vous comptez la population d'un pays, vous êtes obligé de faire des choix. Ben, les gens qui sont en vacances à l'étranger, est-ce que vous les comptez ? Il y a toute une série de choix en permanence quand on élabore des statistiques, des choix qui ont été faits à partir, encore une fois, d'un long travail de réflexion. Ensuite, il faut se tenir à un indicateur. Et moi, c'est ça qui me pose en fait le plus problème, parce que j'ai repéré un certain nombre d'hommes et de femmes politiques au fil du temps, qui se réfèrent à l'indicateur qui les arrange. Donc, parfois c'est le taux de chômage, parfois c'est les chiffres Pôle emploi catégorie A, parfois c'est les chiffres catégorie emploi A, B ou C, et ils prennent le chiffre qui les arrange pour leur démonstration. Et le vrai problème, il est là, c'est qu'il faut un petit peu d'honnêteté, il faut prendre sa batterie d'indicateurs, il faut pouvoir la communiquer comme l'a fait Nicolas, et ensuite s'y tenir, ne pas prendre le chiffre qui vous arrange par rapport à ce que vous voulez montrer à un moment donné.
Alors j'observe aussi le taux d'emploi généralement, oui, Nicolas, dans la batterie. Je trouve que c'est très très révélateur de de l'évolution du chômage, de la santé du marché de l'emploi global. Vous êtes d'accord avec la lecture de l'emploi ? Bon, non, parce que je sais pas s'il y a eu des papiers sur le sujet depuis 24 heures, mais le chômage a-t-il baissé ou a-t-il monté depuis 5 ans ? Vous rendez compte, la question dingue. Ça veut dire que ça veut dire qu'on ne saurait pas et qu'il faudrait aujourd'hui se poser la question pour essayer d'y apporter une réponse. C'est pas possible.
On a eu la même chose, hein, quand on a un peu de mémoire, on a eu la même chose en France sur l'inflation. Ah bah oui. Je rappelle que pendant longtemps, la CGT calculait un indice des prix qui était systématiquement supérieur à celui de l'INSEE de 1 ou 2 points. Donc si vous faisiez 110 ans, vous aviez un appauvrissement absolument effroyable de la population, qui n'était pas ce qu'on voyait par toute une série d'autres indicateurs. Donc c'est un problème récurrent qui se pose aujourd'hui sur l'emploi, qui s'est posé sur l'inflation, qui pourrait d'ailleurs se poser à nouveau sur l'inflation assez vite.
Il y a un débat sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation, sur sa prise en compte ou non du logement. Il y a un sujet
bien sûr.
Donc oui, on est d'accord là-dessus. Non, mais on n'a pas le droit, avec les éléments de statistiques dont on dispose, d'intituler un article « Le chômage est-il baissé ou est-il monté ?» Oui, c'est,
non, ça, ça rend dingue.
Le débat légitime, et ça c'est un vrai débat, c'est quelle est la responsabilité des uns ou des autres, quelles en sont les causes, etc. Et donc le débat, un débat politique sain devrait porter là-dessus. Et là, il peut y avoir des confrontations.
Ah mais non, mais je suis qu'il y a un débat pour savoir. D'ailleurs, je me suis toujours dit que dresser un bilan de ce que nous venons de vivre avec 330 milliards de quoi qu'il en coûte au milieu, ça fausse complètement les éléments d'analyse.
Voilà, ça, c'est de l'analyse.
Voilà, mais justement, alors ça m'amène à vous poser la question suivante, et puis j'espère qu'on pourra parler de la fragmentation, parce que c'est un mot qui m'a beaucoup frappé cette semaine. L'état de la France, là, allez, François.
En 37 secondes.
Non, pas forcément en 30 secondes, mais si on essaye justement d'avoir un regard clinique et pas d'aller chercher le chiffre qui nous arrange, quand on regarde la croissance, quand on regarde la dette, bon, la dette, vous l'avez analysée, on a très bien compris, le chômage, l'industrie, le commerce extérieur, cette France est malade, est fragile, peut tenir, vous voyez, c'est, dans quel état, au début du mois de juin, se trouvera l'économie du pays, selon vous?
Alors, elle est malade. Je ne vais pas reparler de finances publiques, c'est mon sujet, mais est-ce qu'il y a un autre indicateur qui pour moi est tout aussi fâcheux que l'endettement public, c'est le déficit extérieur. Oui. C'est la balance des paiements. Oui, là, alors, on parle beaucoup d'industrialisation. Enfin, c'est très lié, hein, en réalité. Si on a, c'est le vrai indicateur, c'est celui-là. C'est le déficit commercial et plus globalement le déficit des transactions courantes. Alors, on n'est pas encore très endetté vis-à-vis de l'extérieur.
Hein, 20
points de PIB, ce qu'on appelle la position. Le déficit. Le déficit.
Balance des paiements courants. De pas la position nette. Voilà. Hein.
Mais le déficit, l'accumulation de déficit annuel depuis déjà une vingtaine d'années fait qu'on est globalement endetté vis-à-vis du reste du monde à hauteur d'à peu près 20 points de PIB. C'est pas beaucoup, mais ça augmente tous les ans. Ça s'accroît régulièrement. Et donc ça veut dire qu'on est dépendant du reste du monde. Hein. On est obligé de s'endetter. Soit on s'endette auprès du reste du monde, soit on vend nos actifs, c'est-à-dire nos usines, nos immeubles, nos terrains, à des non-résidents. Donc, c'est ça que ça signifie. Donc, le problème fondamental, il est là. C'est pas la peine d'aller... Enfin,
je suis d'accord. La
réindustrialisation, c'est très joli, c'est très bien, etc. Mais enfin, le principal problème, il est là.
Mais c'est le côté noir, un petit peu, de ces merveilleux investissements directs étrangers. On se réjouit parce que l'attractivité est en hausse.
Voilà. Si on a beaucoup d'investissements étrangers, c'est parce qu'on en a besoin. Parce qu'on a un déficit des transactions courantes et qu'on est obligé de faire appel à des étrangers pour acheter nos usines.
En fait, si on résume ce que dit François Eckhall, le futur chef de l'État va trouver un pays qui est de plus en plus détenu par le reste du monde et qui détient de moins en moins à l'extérieur. Et c'est sûr. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. L'état de la France, Jean-Marc Vittori, Nicolas Bouzou.
Ouais, enfin, moi, je suis un petit peu embêté parce que dit François, je voudrais commencer par ça. Alors, problème de déficit, ok. Le déficit de la balance des transactions courantes l'an dernier, il a diminué. Ouais. La balance commerciale, ça s'est augmenté parce qu'on a payé beaucoup plus cher notre pétrole et notre gaz, pour faire schématique. En revanche, la balance des transactions courantes, elle s'est améliorée parce qu'on a vendu beaucoup plus de services de fret maritime, notamment, dont les prix se sont envolés. Et donc, on ne peut pas dire d'un côté, oh là là, c'est catastrophique parce que on paye plus de pétrole et plus cher le pétrole et le gaz, et de l'autre côté, pas voir que l'envolée du fret maritime, qui est liée à la même mécanique d'ensemble, nous profite absolument massivement. Et donc, je crois qu'il faut même regarder les choses de très près. Si, ce qui est amusant, c'est quand vous regardez les observateurs étrangers qui regardent la France. Il y a un certain nombre d'économistes étrangers qui sont à Sciences Po, par exemple, et ils regardent la France, ils comprennent absolument pas ce qui se passe, parce que les indicateurs macro, objectivement, compte tenu évidemment de ce qu'on vient de passer la Covid, sont assez bons. En termes de croissance du pouvoir d'achat, malgré tout, qui a profité tout de même pratiquement à toute la population, même si on regarde centile par centile, on voit mais on a tout de même une augmentation du pouvoir d'achat, une situation de l'emploi qui s'est, quand on prend les indicateurs corrects, sensiblement améliorée. Enfin, et si vous regardez même les inégalités, si vous les prenez sur 10, 15, 20 ans, en France, elles ont augmenté moins qu'ailleurs. On a la part des revenus des 1% en France, elle a un peu diminué sur cette période. Enfin, on a même sur toute une batterie d'indicateurs, une situation qui s'est considérablement améliorée. Mais c'est les indicateurs macro. Et là où je crois qu'on a un vrai problème, c'est qu'on a de plus en plus une déconnexion entre ce que signifient ces indicateurs macro et ce qu'ils signifient au niveau micro, c'est-à-dire individu par individu, avec des conditions de vie qui sont de plus en plus diversifiées. Juste un exemple, et je m'arrêterai là, si vous prenez quelqu'un, des gens qui ont le même salaire, le même travail, qui travaillent au même endroit, etc., qui a l'un qui doit faire 80 km par jour aller, 80 km par jour retour pour aller à son travail, en travaillant au même endroit avec le même salaire, etc., ces conditions de vie ne sont absolument pas les mêmes. Et donc la perception est radicalement différente. Et donc on a ce problème entre une France macro qui, quand on regarde... toute une série d'indicateurs, franchement, se portent plutôt bien, et une situation micro qui s'étire de plus en plus, avec des conséquences sociales qui rejoignent ce qui a été évoqué tout à l'heure, qui peuvent être dramatiques.
Je crois que c'était mardi dans Les Échos, il y avait un très bon papier de Pascal Péry qui s'appelait TPMG.
Le ressentiment.
TPMG, oui. Tout pour ma gueule, ça veut dire TPMG. Non, c'était bien senti. L'état de la France, Nicolas Bouzou, pour conclure le tour de table, avant de parler de la fragmentation, mais là c'est au niveau mondial.
Je pense qu'un certain nombre de choses se sont améliorées quand même en matière de marché du travail, d'attractivité, même d'industrie. On a quand même des petits signes qui montrent que...
Pas encore sur l'emploi, mais sur le nombre d'aventures industrielles.
Ouais, exactement. Bon. Tout à fait. Ouais. Moi, je vois même des territoires qui me disent...
Oui.
On a tellement de demandes, il y a tellement de projets qu'on peut plus, on n'a plus de place. Donc ça, moi, j'avais jamais vu ça en 15 ans, quand même. Ouais. Donc je crois qu'il y a des signes d'amélioration. Je voudrais mettre l'accent sur ce qui me semble devoir être le grand défi du prochain quinquennat, ou l'un des plus grands défis sur lesquels, là, on n'est pas bon, c'est l'innovation, mais l'innovation en matière de production des innovations, pas d'utilisation des innovations, parce que en France, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, notamment grâce à des dispositifs du type France Relance. On voit que la robotisation s'améliore dans le commerce, il y a beaucoup d'investissements dans le numérique, donc ça c'est bien, mais où on n'est pas bon, c'est en matière de production des innovations. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux aspects dans l'innovation, hein, l'utilisation et la production. Et ça, si on a un peu d'ambition pour le pays, c'est-à-dire que si on a un peu des ambitions en termes de puissance, si on veut que le pays maîtrise des technologies, il faut vraiment réfléchir à ça. Et la réflexion, à mon avis, c'est, au fond, on se gargarise beaucoup de nos licornes, on a 26 licornes, c'est bien, etc. Bon. Mais ces licornes sont assez petites, en fait. Déjà, 26, c'est pas énorme. Elles sont assez petites, on n'a quasiment pas d'entreprises en tech qui ont une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards. 10 milliards, c'est pas beaucoup pourtant, hein, mais bon, on n'en a quasiment pas. Puis quand je regarde ces licornes, bon, quand je regarde dans quel secteur elles sont, c'est bien, le sport, les loisirs, c'est super, mais je pense qu'on peut avoir des ambitions un peu plus importantes que de faire de la France un terrain de football numérique, si vous voulez. Donc, sur les clean tech, il n'y a pas grand-chose. Sur les health tech, il y a plein de choses, mais c'est petit. Sur la deep tech, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je trouve que l'enjeu, me semble-t-il, l'un des enjeux vraiment existentiels pour le prochain quinquennat, c'est de se dire, mais comment on transforme l'essai, quoi? Comment est-ce que de ce jardin de petites licornes, comment on fait pour en sortir, allez, entre 5 et 10 entreprises des secteurs tech qui vont véritablement compter? Parce que là, on n'y est pas.
On est passé complètement au travers de sujets numériques, comme disait Jean-Marc Vittori, il n'a pas été évoqué. On a 2 minutes 40, c'est pas long, Jean-Marc Vittori, mais vous avez écrit sur ce mot qui a retenu mon attention cette semaine, le mot fragmentation. Et tout ça est un peu ressorti des discours de la Banque mondiale et du FMI à Washington.
Oui, j'avais écrit mon article avant.
Oui, mais je sais.
En partant de la phrase de Larry Fink, le patron du gestionnaire d'actifs BlackRock, le premier au monde avec plus de 10 000 milliards d'actifs, de dollars d'actifs sous gestion, qui a dit c'est la fin de la mondialisation. La guerre en Ukraine marque la fin de la mondialisation. Et ce qu'on a appelé la mondialisation, c'était la mondialisation d'abord des marchandises. On exportait de plus en plus de marchandises. Avant la crise financière de 2008, les exportations de marchandises progressaient deux fois plus vite que le PIB mondial. Et donc là, on était dans quelque chose qui se mondialisait. On avait une économie qui devenait plus mondiale. Mais j'ai cité 2008, et en fait, si on regarde, la rupture, c'est pas 2022, c'est 2008. Depuis 2008, le commerce mondial progresse au même rythme que le PIB, voire un peu moins. Donc, en réalité, on est déjà en démondialisation, au moins sur l'aspect marchandises. Mais si on regarde toute une série d'autres dimensions, on voit que ça va suivre. Alors sur les services, on peut imaginer que avec le télétravail, on va pouvoir travailler en Afrique ou à Singapour comme à Paris, et que ça va être pareil. Je pense qu'on va voir des barrières qui vont réapparaître très vite là-dessus aussi. Les flux financiers, ça a culminé en 2008, depuis ils sont moins importants, les flux financiers internationaux. Donc on a bien quelque chose qui s'est cassé, mais il y a pratiquement 15 ans. Alors qu'est-ce qui se casse aujourd'hui?
Et on a une minute pour conclure.
Qu'est-ce qui se casse aujourd'hui? Ben, on voit bien que il y a 15 ans, c'est les entreprises qui pilotaient ça. Maintenant, ce sont les États. Et les États coupent, cassent. Et on voit bien ce qui... à la fois ce que la Russie a fait en déclenchant la guerre en Ukraine, mais aussi la façon dont la plupart des pays européens et les États-Unis ont réagi. On va mettre des murs de plus en plus forts, des murs réglementaires, qui vont interdire des transactions, mais qui vont faire aussi, vont apparaître des systèmes de normes qui seront des systèmes de normes qui ne seront plus mondiaux, mais qui vont être régionaux. Et donc, on va voir un monde qui va se refragmenter. Je pense que le mot de cette année 2022, ça devrait être refragmentation.
Merci Jean-Marc Vittori, François Eckhall, allez sur fipeco.fr comme je le dis souvent, et Nicolas Bouzou. On se retrouve lundi à 9h, j'espère que vous terminez pas cette émission, vous êtes totalement déprimé. J'ai pas eu le temps de lire vos dernières réactions sur Twitter, mais il y en a plusieurs. À lundi.